C'est que l'humanité parlait une langue une, indépendamment et au-delà et à travers les langages particuliers de la personnalité concrète de chaque peuple. Le Lashon HaKodesh, la langue une, les Shivim Lashon, les 70 langues. On apprend par le récit que, à travers la révolte de l'humanité à la tour de Babel, qui se révolte contre la souveraineté du Créateur, la révolte contre l'unité, contre le principe d'unité, la langue unique va finir par disparaître, il ne restera que le langage particulier. Mais ce que nous devons d'abord comprendre, c'est en quoi le fait de dire que l'homme parlait une langue une désigne un état de l'universel réel. Et je vais vous donner un exemple qui, j'espère, arrivera à vous éclaircir ce problème. Il y a un domaine de l'activité intellectuelle où on a retrouvé cette langue une. Et où ceux qui participent de cette langue une, eh bien, forment une communauté vraiment universelle, quelle que soit d'autre part leur insertion dans tel peuple ou dans telle société donnée. À quoi je pense quand je parle de cela? Hein? Qui a dit ça? Très bien. Effectivement, les mathématiques, c'est une langue universelle. C'est-à-dire, tous les mathématiciens se comprennent. Et ils se comprennent très exactement, quelle que soit d'autre part leur identité ou leur personnalité concrète. Et on verra par la suite que c'est le génie de la société grecque, les Hellènes plus exactement, qui a réussi à instaurer les mathématiques comme langage des sciences. Et effectivement, cette recherche de l'universel humain sur un point a réussi dans l'ordre des sciences, dans l'ordre, disons, du langage des sciences, dans l'ordre de la méthode des sciences, on a réussi à reconstituer la langue une. Et ça, c'est à l'actif du génie grec. Ça ne veut pas dire que d'autres hommes, d'autres peuples ne peuvent pas y participer, mais ils participent à une aventure qui a commencé dans la civilisation grecque. Le fait d'instaurer la mathématique comme langage des sciences. Je suppose que ça vous rappelle des souvenirs de vos études. Un objet d'étude ne devient scientifique dans la culture contemporaine que si on peut le formuler en langage mathématique. Est-ce que c'est clair? Donc, alors voilà, c'était vrai à l'échelle générale, à l'échelle universelle, à l'échelle générale d'ailleurs de l'identité humaine. Le fait de dire que l'humanité parlait la même langue, ça veut dire très profondément que l'universel était réel et concret. On va voir que cet universel s'est brisé, et le résultat, c'est les conflits entre manières d'être homme qui inaugurent l'histoire de l'impérialisme. Oui, lorsque l'universalisme disparaît, c'est l'impérialisme qui se met à la place. Quelle est la différence entre l'universel et l'impérialisme? Au niveau de l'universalisme, eh bien, on a une unité de l'ensemble humain, chacun étant à sa place, homme à sa manière. Mais l'humanité est une. Tandis que dans l'impérialisme, quelles que soient les prétentions intellectuelles abstraites de dire que l'humanité est une, c'est une manière d'être homme en particulier qui tient à s'imposer aux autres. Dans ce rêve, dans cette recherche de refaire l'unité humaine qui travaille l'humanité, on voit que les nations ont toujours échoué, le rêve de l'universel est authentique, la réalité bascule dans l'impérialisme. Voilà, c'est clair? C'est le premier sujet sur lequel je voulais que vous réfléchissiez. Alors c'est très important, parce qu'on va s'apercevoir que le récit de l'histoire de l'humanité pour la Bible commence par nous décrire, par nous mettre en place les réalités de l'impérialisme, et qu'on va voir une toute autre exigence de reconstruction de l'unité universelle perdue qui est le messianisme. Ça, nous verrons plus tard. Et on verra, à travers l'histoire, la société d'Israël, porteur de l'idéal messianique, qui traverse les différents empires dans un conflit perpétuel entre l'identité d'Israël d'un côté et l'identité des empires de l'autre. Vous regrouperez toute l'histoire que nous avons traversée, il n'y a aucune exception. Il n'y a strictement aucune exception qui n'apparaisse. Je vais prendre un premier exemple pour éclairer ce problème. Voilà, autant la Révolution française apparaît dans la vie politique de l'humanité contemporaine, l'exigence de reconstruction de l'universel. Mais la Révolution française a été préparée par tout un mouvement d'idées, en particulier, vous avez entendu parler, surtout étudié, au XVIIIe siècle, le mouvement de l'encyclopédie. Au niveau des penseurs de l'encyclopédie, on perçoit cette résurgence du rêve, de l'idéal, de l'universel humain, au-delà des différences, des différentes catégories concrètes des personnalités, des peuples, des nations, des États, des sociétés. Et puis, le véhicule de réalisation politique historique de ce rêve a été, dans l'histoire contemporaine, d'abord la société française. C'est la société française qui a pris à charge ce rêve de l'universel et qui a voulu l'instaurer à l'échelle de modèle pour la culture de tous les pays. D'ailleurs, beaucoup de choses ont passé depuis le temps de la Révolution française dans l'histoire de toutes les nations civilisées à partir de ce qui s'est passé en France. Et là, on s'aperçoit de quelque chose de très significatif. Très rapidement, la République fondée sur le rêve, l'idéal de l'universel, bascule dans l'Empire. Et effectivement, quelques années à peine après la Constituante, après la première République dont le rêve était l'universel humain, de vecteur français, mais le rêve visé, c'était l'universel humain, ça apparaît déjà dans les écrits de l'encyclopédie, comme je vous le disais, finalement ça bascule dans l'Empire. Et il s'agit de l'Empire français, qui pourrait expliquer pourquoi, enfin mettre en évidence ce qu'on apprend là. Dans toutes les cultures, à un certain moment, le rêve de l'universel apparaît. Et il est authentique. En tant que rêve, en tant qu'idéal, il est authentique. D'ailleurs, nous les Juifs, on a été séduits par ce caractère idéal et authentique des idéaux de l'universel de la Révolution française. Au point qu'énormément de Juifs se sont perdus dans cette participation à l'identité française. C'est ce qui s'est appelé l'assimilation. Tout cela, vous avez dû l'apprendre de manière différente, peu importe, c'est le même phénomène. Chaque fois qu'une société arrive à un certain stade de développement, elle reprend en charge le rêve de la reconstruction de l'universel humain perdu à Babel. Et voilà qu'inévitablement, il n'y a pas d'exception, ça bascule dans l'impérialisme. L'exemple français est très significatif pour nous qui sommes familiers à cet exemple. Mais je suppose que vous-même, vous avez dû être frappé de cela. Quelques années de l'idéal de la Révolution française et puis immédiatement après l'Empire français. Et je parle de l'Empire de Napoléon Ier, mais les différents systèmes politiques qui se sont succédés sont tombés dans le même défaut. Je vais prendre un tout autre exemple d'une toute autre époque, dans tout autre endroit du monde, c'est la Révolution marxiste. La Révolution marxiste elle-même a eu pour rêve l'universel humain, à sa manière. Et puis la société qui historiquement s'est trouvée en charge de ce rêve de l'universel humain, de l'idéal marxiste, ça a été la société soviétique. Et tout de suite, ça bascule dans l'Empire soviétique, où une société en particulier, c'était la société russe, fonde un empire au nom de la recherche de l'universel. Vous voyez ? Et si vous reprenez toute l'histoire universelle, il n'y a aucune exception. Chaque fois, je vais schématiser ça de manière que ce soit suffisamment clair, chaque fois, le rêve, l'idéal de l'universel est authentique et sincère, et chaque fois, au niveau de la réalité concrète, ça bascule dans l'échec de l'impérialisme. Et il n'y a pas d'exception. Si vous avez en tête une exception, on essaiera d'y réfléchir, mais c'est vrai au niveau politique, c'est vrai au niveau philosophique, c'est vrai au niveau religieux, c'est vrai au niveau de toutes les conduites de la culture humaine. On voit que la visée est de prétention universelle, la réalité est impérialiste. Est-ce que c'est clair? Et c'est le début de cette histoire que la Torah nous raconte à partir du chapitre 11. Bien, je reviens à l'origine du problème. Et la notion qu'il faut retenir, c'est que dire que l'humanité parlait une langue une, c'est dire qu'il y avait un universel humain concret, réel. J'ai fait allusion tout à l'heure, très rapidement, à la définition du caractère spécifique de l'identité humaine d'après l'enseignement de la Torah, c'est le vivant parlant. J'ouvre ici une petite parenthèse, et vous me direz si c'est bien clair pour ce premier thème, la perte de l'universel et l'apparition des impérialismes. Le premier impérialisme qui va apparaître, vous lirez attentivement le récit, c'est l'impérialisme de la civilisation babylonienne, Babel, dont le tyran était qui était le chef de cette culture de Babel antique, un personnage qui va apparaître au temps d'Abraham, On a déjà vu ça une fois. Bien. Nimrod, très bien. Vous avez lu le texte, j'espère. Bon. Relisez en tout cas pour vous familiariser avec le texte. Eh bien, lorsque la Torah veut définir le caractère spécifique de l'homme, je vais vous donner une référence, vous l'étudierez par vous-même, eh bien, elle le définit ainsi. Alors, vous allez prendre un tableau des quatre niveaux de l'être, il y en a cinq d'ailleurs, tel que Judas Lévi le définit dans le Kuzari. Je vous le rappelle, pas trop en détail, parce que je sais que dans vos programmes, vous allez sûrement l'étudier d'autre part. Alors, il y a d'abord, dans l'échelle des êtres, dans les niveaux de l'être, l'être en français qu'on appelle inerte. L'être matériel impersonnel, inerte. En hébreu, c'est le stade du domem. Domem, en hébreu, c'est le terme qu'on emploie pour dire l'être inerte. Mais étymologiquement, ça veut dire silencieux. Domem. Vous voyez tout de suite que le vocabulaire hébreu pour dire les différents niveaux de l'être est un vocabulaire qui va être organisé d'après la fonction du langage. Alors vous avez d'abord comme première... comme premier niveau, le domaine. Ensuite, le végétal. Le végétal se dit tomea. En hébreu, il y a déjà une connotation de murmure dans la racine qui veut dire le végétal, qui peut me dire, dans un autre mot, comment c'est évident, comment on dit le végétal, et que ça veut dire le murmure, donc vous devez connaître ça. Comment on dit un buisson en hébreu? Qui connaît bien l'hébreu? Je vais vous diriger un peu. Main? Je n'entends pas. Sia. La conversation, okay. Le murmure. Et la soua, c'est une racine qui veut dire murmurer, c'est le début de la parole, et ça veut dire aussi la végétation. Vous voyez, rassembler ces catégories entre l'hébreu et le français, pour bien percevoir ça, il y a une ligne de définition des niveaux de l'être qui va aboutir au langage. Ça commence par l'inerte, mais en hébreu ça se dit domem. Ensuite le végétal. Même au niveau poétique, vous pouvez comprendre cela. Et c'est le murmure déjà. Ensuite, il y a le vivant, le hay, et plus haut, le hay amdaber, le vivant parlant. Le vivant, c'est l'ensemble des animaux. Le vivant parlant, c'est l'homme. Et au-dessus du vivant parlant, il y a le prophète. Ça veut dire le vivant parlant en vérité. Alors voilà les différents niveaux de l'être. Cette catégorisation a été donnée par Judas Lévi, mais elle est très familière dans tous les textes des maîtres du judaïsme. Le domem, tzomeach, chay, chayam daver, navi. Et vous voyez, même le mot de navi, ça veut dire celui qui est capable de parler. Bore niv sfataim. Alors voilà, ici on découvre quelque chose d'important. Lorsque la Torah veut définir le caractère spécifique de l'homme, elle ne le définit pas par la pensée, mais par la parole. Vous voyez, si je vous prends la définition telle que la cour dans la culture contemporaine, il faudrait dire le vivant pensant. Descartes disait, ça vient de Descartes enseignant en latin, donc c'est traduit en français, mais en latin c'était plus précis, disait animal raisonnable. Vous voyez, animal, ça veut dire être vivant, être animé, et puis raisonnable, ça veut dire doué de raison. Mais en fait, il le dit de manière plus précise, une chose pensante. Res cogitans en latin. Alors que chez les rabbins, on voit qu'on connaît les deux définitions, soit le vivant pensant, soit le vivant parlant, mais la tradition rabbinique a choisi le vivant parlant, et nous allons essayer de comprendre pourquoi, alors que la tradition philosophique, elle, a choisi le vivant pensant. Bon, je vais vous dire tout de suite, pour ne pas perdre de temps, quelle est l'importance qu'il y a dans cette définition. Mais d'abord, vous allez prendre la règle d'une définition. Pour définir un objet, on le définit d'abord par un terme qui désigne la classe d'être dans laquelle il entre. Ça s'appelle en logique le genre prochain. Et ensuite, on ajoute un adjectif qui désigne la qualité qu'il est seul à avoir dans cette classe d'être. Par exemple, l'homme, on le rattache d'abord à la classe des êtres vivants, le vivant, Hai. En français ancien, on disait animal, mais ça ne voulait pas dire une bête, ça voulait dire un être animé. Il y a une catégorie où l'homme et la bête font partie, c'est d'être vivant biologiquement. Et un caractère spécifique de l'homme, c'est l'adjectif parlant. Alors, vous voyez, pour les philosophes, c'est pensant, alors qu'en réalité, pour les rabbins, c'est parlant. Quelle est la différence? On va le voir tout de suite. Une différence très importante. Ça ne veut pas dire que les rabbins ne connaissent pas aussi la définition par la pensée. Mais pourquoi ils ont préféré la définition par la parole? Je vais vous le dire directement, mais vous y réfléchirez par vous-même. La première objection à l'analyse que je suis en train de vous faire, ce serait de dire « mais les animaux aussi ont un langage ». Alors là, il faudrait faire une analyse très fine. Les animaux communiquent par signes. Ça ne veut pas dire que ce soit un langage. Il y a communication par signes, par représentation olfactive, visuelle, des différents sens. Et il y a des signaux qui sont envoyés et qui sont, interprétés. Mais ce n'est pas un langage de communication de personne à personne. Et tu m'as fait penser à autre chose. Vous avez entendu parler du réflexe de Pavlov. Qu'est-ce que c'est que le réflexe pavlovien? Je vais vous décrire très rapidement. Alors, on habitue un animal à recevoir une sucrerie chaque fois qu'il y a un signal qui se déclenche. Par exemple, une cloche. Alors, chaque fois qu'il y a une cloche, on lui donne un sucre, à un chien, par exemple. Alors, l'animal va finir par associer sous forme de réflexe ces deux données de représentation. Il salive pour avoir la sucrerie et en même temps, il entend. Oui, il y a une relation de concomitance qui se fait prendre pour une relation de cause à effet. C'est l'habitude que lorsque un facteur arrive, l'autre facteur arrive aussi, qui fait que on finit par penser que l'un est la cause de l'autre. Est-ce que c'est clair? Réfléchissez bien à ça. Et alors, l'être vivant dispose de toute une série de codes de communication par signe, mais il ne s'agit pas du langage. D'autre part, une donnée très importante, c'est que, et les modernes le savent, mais dans le Talmud c'est déjà évident, les animaux pensent eux aussi. Ils pensent de façon rudimentaire, ils pensent un peu à la manière plus élaborée suivant les espèces, à la manière de ce réflexe pavlovien que je viens de vous décrire. Et c'est par le fait que l'homme est doué de la parole que sa pensée a des dimensions beaucoup plus grandes que les rudiments de pensée qu'il y a chez les animaux. Mais je vais vous faire un peu l'étymologie du terme de pensée, de telle sorte que vous compreniez de quoi il s'agit dans la fonction de la pensée. Le mot pensée vient d'une racine qui signifie peser. Par exemple, vous connaissez le mot français pondéré. Eh bien, ça vient d'une racine qui signifie peser. Quelque chose de pondérable, ça veut dire que c'est quelque chose qui a du poids. Alors, peser, ça veut dire peser ensemble pour comparer deux poids. Peser. L'ishkol. C'est une racine qui, en hébreu, l'ishkol, shin, kuf, lamed, est très proche de la racine qui va donner le terme de l'intelligence, sechel, sin, kaf, lamed. C'est pas le même mot, hein. Attention. Un, c'est l'ishkol avec kuf, et l'autre, c'est l'askil avec kaf, mais c'est deux voisines très semblables. Quand je pense, qu'est-ce que je réalise? J'établis un rapport entre deux données. Oui, je pèse ensemble deux représentations. Je pense ensemble deux représentations. C'est le commencement de la pensée. Par exemple, si j'émets le jugement, le ciel est bleu. Qu'est-ce que ça veut dire que j'ai pensé que le ciel est bleu? J'attache la qualité bleue à la réalité ciel. Le ciel est bleu. C'est le commencement de la pensée. Je mets en relation deux représentations. La représentation du ciel et la représentation de la couleur. Or, cette fonction-là, les animaux la possèdent. Puisqu'elle s'attache, elle s'enracine dans la fonction de représentation des différents sens. L'être vivant biologiquement pense. C'est l'homme qui parle. Et parce que l'homme parle, sa pensée prend des dimensions considérables. Mais ça ne signifie pas que l'animal ne pense pas. Voilà, c'est clair? C'est pourquoi les rabbins, la première raison, on va voir que ça dépasse tout ça, vont préférer le vivant parlant au vivant pensant. parce que le vivant parlant est une définition beaucoup plus exacte de ce que l'on recherche, c'est-à-dire le caractère spécifique de l'objet dont on veut parler. Vous apprendrez par vous-même que la science la plus difficile, c'est la science de la définition. Et on va faire un petit exemple. Vous allez essayer de définir un verre. Voilà, un verre. Je suis en train de regarder mon verre. Définissez-le. Donnez-moi la définition du verre. Comment vous allez définir le verre? Verre, V-E-2-R-E, hein, pas V-E-R-T. Un seul à la fois et parler plus fort, ok? J'écoute. Un verre, il y a des millions d'ustensiles différents. Je te parle du verre. Un marteau, c'est un ustensile. Vous voyez que c'est pas simple, c'est pas facile. Je vais vous donner un exemple. Et quand je faisais mes études, j'ai une fois cherché dans le dictionnaire Larousse la définition du juif. Alors, qu'est-ce qu'un juif pour le dictionnaire Larousse? Membre de la communauté dont la religion est le judaïsme. J'ai cherché judaïsme et il y a eu communauté des juifs. Vous voyez, blanc bonnet, bonnet blanc, comment dire. Et ne croyez pas que c'est anodin. La définition est la science la plus difficile. Comment définir un objet de telle sorte d'être sûr d'avoir donné sa carte signalétique et qu'on ne se trompe pas avec un autre? Et je veux dire, j'ai un peu fait ces études-là parce que quand j'ai étudié l'ethnographie, il y avait une des disciplines, c'était de faire des fiches, des signalétiques d'objets propres aux sociétés des cultures anciennes ou des cultures exotiques, comme on dit aujourd'hui. Il fallait, on n'avait pas vu l'objet, mais il fallait, en étudiant la carte signalétique, décrire et dessiner l'objet en question. Imaginez, je veux dire pourquoi je choisis cet exemple, que vous n'ayez jamais vu un chauffard, il faudrait que vous décriviez un chauffard de telle sorte que quiconque voit un chauffard sache que c'est de ça que vous parlez. Parce que figurez-vous, à l'examen, on m'a donné à faire la fiche signalétique d'un chauffard. Je vous avoue que j'ai eu 20 sur 20. L'examinateur n'arrivait pas à comprendre comment je connaissais ce que c'était qu'un chauffard de manière aussi évidente. Il faut vous dire que c'était un Français. Bon. Et alors, imaginez la difficulté de la définition. Si je vous demande de définir un stylo, de telle sorte quelqu'un qui n'ait jamais vu un stylo reconnaisse un stylo quand il aura lu votre définition. C'est impossible. Vous allez me dire un instrument qui sert à écrire. Ça peut être un crayon. Vous avez compris la difficulté. Alors, retenez la règle. Faites vous-même des exercices. Il faut d'abord définir le genre prochain. Ça veut dire la classe d'un degré supérieur auquel l'objet dont on parle entre. Par exemple, pour l'homme, le vivant. Et ensuite, l'adjectif qui décrit le caractère spécifique de l'objet que les autres n'ont pas. D'où notre définition, le vivant parlant. C'est clair? Bon. Alors, en fin de compte, pourquoi les rabbins ont préféré le vivant parlant qu'au vivant pensant? Eh bien, maintenant, on est très aidé par la technique moderne pour savoir que la pensée peut être impersonnelle. Il y a aujourd'hui des machines à penser. Ça pense. Alors que le langage, il y a quelqu'un derrière. Quelqu'un parle. Et c'est très important pour le fondement de la morale. Ça veut dire la dignité de la personne humaine comme sujet dépend de la définition de l'homme. Si je dis le vivant pensant, j'aboutis à une morale de l'impersonnel. Si je dis le vivant parlant, je fonde la morale de la dignité du sujet de la personne humaine individuelle. Apparemment, ça n'a aucun rapport, mais vous allez réfléchir pour comprendre le rapport. Hein. Ça veut dire que la manière même de définir l'identité humaine implique une option d'ordre moral. Si je dis c'est la parole, derrière il y a le quelqu'un. Alors si je dis c'est la pensée, derrière il y a le ça, l'impersonnel. Vous voyez, il y a deux visions du monde radicalement différentes. Effectivement, ce qui est en jeu entre ces deux définitions, c'est la dignité de la personne humaine. Vous avez compris l'importance de ce problème. Bon, c'est clair? Alors il en résulte que dire, comme dit notre verset, que la terre parlait une langue une, c'est dire de façon total que l'universel humain était réel. Voilà, la première analyse, elle est importante, retenue là. Si cette langue une disparaît, Il ne reste que le langage particulier. Il en résulte que l'histoire de l'humanité devient l'impérialisme, alors que la vraie solution à chercher, c'est l'universalisme. Je vais juste ajouter une remarque à cette analyse, et après vous allez faire une petite apsaka. Oui, c'est l'heure. C'est le fait que dans tous les mouvements, qu'ils soient politiques, historiques, religieux, où on a cherché le critère de l'universel, il y a toujours place pour tous les hommes, sauf pour une manière d'être homme, qui est les juifs. Voilà, je vais essayer de vous expliquer ce que je viens de dire là. Là aussi, il n'y a pas d'exception. La première règle que j'ai formulée, c'est que, sans exception, toutes les sociétés humaines qui ont voulu l'universalisme ont basculé dans l'impérialisme. On n'a qu'à prendre comme exemple la Révolution française, l'Empire français. La Révolution marxiste, l'Empire soviétique. Il n'y a pas d'exception. Le christianisme comme religion universelle bascule dans l'impérialisme romain. L'islam comme religion universelle bascule dans l'impérialisme islamiste. Vous remarquez cela? Ça ne veut pas dire qu'à l'échelle individuelle, il n'y a pas des héros de l'universalisme qui luttent pour et donc contre l'impérialisme. Mais on voit qu'il y a une sorte de fatalité. Les sociétés humaines n'arrivent pas à réaliser leur propre rêve de l'universel. Elles basculent dans l'impérialisme. J'ai schématisé beaucoup cela, réfléchissez à cela, de façon à bien intégrer cela. Alors il y a une deuxième règle. Dans ces sociétés de type universaliste ou de prétention universaliste, il y a toujours eu place pour tous, sauf pour les juifs. Et je vais vous prendre l'exemple de la Révolution française. C'est une chose qui est très connue. C'est un des députés de la Constituante, qui s'appelait Clermont-Tonnerre, qui a dit la formule. Aux juifs, comme individus, tout, effectivement, la Révolution française a donné aux juifs, comme individus, tous les droits et tous les devoirs, de manière généreuse et authentique. Aux juifs, comme nation, rien. C'est-à-dire, la clause pour entrer dans la société française, c'était d'abandonner la nation juive. Et ça a été le commencement de l'assimilation des juifs en France. Et on reprendra ça historiquement, si vous voulez, plus en détail. Mais je pense que ça doit vous être très familier. C'est-à-dire, la France accorde aux individus juifs tout, à l'entité juive, aux juifs donc réels, rien. Voilà, d'où cette espèce d'hypocrisie très généreuse d'ailleurs, des relations entre les juifs et l'État français. L'État français a toujours su que l'identité juive était une identité nationale, et a toujours fait comme si c'était une identité confessionnelle. C'était une hypocrisie qui n'a jamais trompé personne. La preuve, c'est que les communautés juives se définissant comme religieuses avaient un très grave problème qui, au nom de la religion, interdire les mariages avec les membres d'une autre nation. Mais c'est une interdiction d'ordre national. Et effectivement, c'est une des pièges que Napoléon a posé au Sanhédrin de Napoléon au moment où il a offert la citoyenneté française aux Juifs, les mariages avec les Français. Et les rabbins ont été obligés de refuser en disant « Nous avons des raisons religieuses de ne pas se marier avec des non-Juifs. » Mais c'est un fait national. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que l'État français l'a posé. Et alors, tous ceux qui ont fait une école juive le savent. C'est-à-dire, c'est au nom de la tolérance et de la laïcité française qu'on a le droit d'avoir des écoles religieuses. Mais dans les écoles religieuses juives, qu'est-ce qu'on apprend essentiellement? Que le juif se définit par une espérance, le retour à Sion. Mais ça, c'est national. Mais vas-y, voyez ce que je vous dis. Et les Français le savent bien, les Juifs le savent aussi. Il y a une espèce de consensus, on va jouer le jeu. Mais en réalité, vous voyez, c'est une société d'idéal universaliste, mais qui est un impérialisme. Et alors, s'il y a des individus qui ont la citoyenneté française, qui veulent se considérer comme membres d'une autre nation, ils feront ça à l'échelle privée, dans les synagogues, dans les mosquées, etc. C'est un problème qui a éclaté avec l'islam en France, mais c'est un problème qui s'est posé d'abord avec les Juifs. Et c'est un problème qui se pose d'abord aux Juifs. Je vous donne un exemple pour vous aider à réfléchir. Depuis la fin de la guerre d'Algérie, il est évident qu'il y aurait des musulmans algériens citoyens français. Et vous voyez, ça fait apparaître un problème sociopolitique très analogue à celui qui s'est posé aux Juifs. Est-ce qu'un Juif qui se considère comme français considère qu'un musulman qui se considère comme français est aussi français que lui. Vous avez compris quel est le problème? Alors pourquoi dans un cas oui, dans l'autre cas non? Ça paraît aberrant de dire qu'un arabe algérien c'est un français, même s'il est citoyen français. Pourquoi ça peut paraître vraisemblable de dire d'un juif algérien qu'il est français, même s'il est citoyen français? Vous voyez le problème? C'est un problème très difficile que vous avez vécu dans vos familles, et que je connais très bien, puisque je fais partie de cette communauté. Et c'est un problème insoluble si on n'a pas le courage de voir les choses en face. C'est que l'identité juive est d'abord une identité nationale, et c'est une...